CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du mag du Tarn-et-Garonne. À qui le tour aujourd'hui ? L'Université populaire de Montauban propose un cycle de conférences sur l'histoire de Montauban, proposé par Aymeric de Ligondet, que Rémi Toruella a reçu en studio, et on les écoutera juste après la chronique toponymie de Paul Burgan. Comme chaque lundi, le voici.
La vie des pays, au son de la pop et du rock en Tarn-et-Garonne. La vie des pays, CFM.
Bonjour à tous. Le toponyme Savatier apparaît à Fontneuve et Pouty. Il s'agit du nom de métier correspondant au français savetier qui a disparu de l'usage au profit de cordonnier. C'est un dérivé avec le suffixe « yé », issu du latin « arius », du nom « savata », dont l'origine est douteuse, peut-être arabe. Le lieu-dit « las saltres », encore attesté, est situé près de la garde. C'est le féminin pluriel du « saltre » ou « sartre », issu du latin « sartor », avec le sens de « tailleur ». Le singulier désigne peut-être une couturière et le pluriel a un sens collectif. La forme simple du masculin « Lou Sartre se trouvait à Bonnefond. Le toponyme Saraillé, encore attesté à Pouty, est le mot occitan désignant un serrurier. Il est dérivé avec le suffixe yé de Sarraglio, qui signifie serrure, et est issu du latin Serracula, de même sens. Le lieu-dit nommé Syndic, qui se trouvait lui aussi vers Pouty, désignait jadis le représentant d'une ville. Il est issu du grec latinisé Syndicus, qui était à l'origine celui qui assiste en justice. Ce terme a pris aujourd'hui un sens bien différent. Un sergent figurait comme toponyme à Sapiac. Ce terme est issu du latin serventem, participe du verbe servire. Il a d'abord désigné un serviteur, puis un officier de justice aux fonctions diverses. Au XVIIe siècle, il avait pour tâche de mettre les soldats en rang avant de parvenir au sens actuel de grade militaire. La forme occitane est « sirvent ». On trouve aussi, vers les Léojac, un ancien lieu-dit nommé « le camp du soldat », champ dont le propriétaire remplissait cette fonction. Le terme a été emprunté à l'italien à partir de « soldare », payer une solde. À la semaine prochaine.
Toutes les chroniques toponymie de Paul Burgan sont en podcast et en réécoute illimitée sur cfmradio.fr. Et avant de partir à la rencontre d'Aymeric de Ligondet, passionné par l'histoire de Montauban et qui propose des cycles de conférences sur ce thème dans le cadre de l'Université populaire de Montauban, on se fait une petite pause dans ce mag du Tarn-et-Garonne. On se retrouve juste après.
De l'avenue du Père Hugues au lac de la Barthe.
Vous écoutez CFM.
Vous écoutez CFM.
99.4. Envie d'exotisme, de dépaysement ? Voyez les choses en grand. Le palais de Montauban, le plus impressionnant buffet à volonté asiatique de la région. 90 plats au choix, wok, grillade, spécialité japonaise, chinoise, fruits de mer, dessert, pour 14,90€ seulement le midi et 20,90€ le soir. Une boisson et café compris. Faites-vous plaisir, le palais de Montauban, buffet à volonté sur place ou plat à emporter, 1270 avenue de Toulouse à Montauban, 06 16 35 35 06. Pour votre santé, bougez plus.
Can't keep my mind off your floating ground. Wanna put a ring on your little finger. When I propose to you, you just laugh. You squish me flat with your thumb and finger. When I call you up on your telephone, you always say that you want me to come over. You shake, 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 shake. You shake, 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 shake. You think I'm too dumb to when you roam. Cocaine and drugs and alcohol. The one to fend from you, girl. The one to fend from you. I don't want to fend from you. I don't want to fend from you.
CFM à Caylus et dans les gorges de l'Aveyron, 99.4 et 89.2.
L'Université populaire de Montauban vous propose un cycle de conférences sur l'histoire de Montauban. Et c'est Aymeric de Ligondé qui vous propose ce cycle. Aymeric de Ligondé qui est passionné d'histoire. Bonjour Aymeric de Ligondé.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci.
Donc vous êtes passionné d'histoire de Montauban particulièrement. Et vous donnerez le 16 janvier prochain une conférence à 18h à l'Université populaire.
Tout à fait.
Le siège de 1621 et les 400 coups. Alors, déjà Montauban, est-ce que c'est une bastide ou est-ce que c'est pas une bastide?
Alors ça, oui et non. Alors, je suis pas normand, c'est pas une réponse de normand, mais effectivement, oui et non. Oui, c'est une bastide au sens, c'est la première bastide à avoir été fondée, mais ce n'en est pas une pour des raisons politiques. Alors, j'explique pourquoi, parce que à l'époque, beaucoup de villes se constituaient donc en France, enfin dans toute l'Europe médiévale, et on les appelait, dans le midi de la France, les castelnaux ou les sauvetés. Les castelnaux, c'était quand la ville était fondée sous l'influence d'un château, d'où le nom castelnaux. Une sauveté, c'est quand cette ville était construite sous l'influence d'une abbaye. Donc sauveté, c'est la paix de Dieu. Et voilà. Mais là, il n'y avait pas de plan préconçu. C'était une ville qui se construisait, il y avait des chemins, et les maisons se construisaient le long de ces chemins, et ça donnait une ville. Une bastide, au contraire, c'est un mécanisme plus récent. La ville est construite selon un plan préconçu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une volonté de créer une ville, pour des raisons X ou Y, politiques, économiques, stratégiques. Mais surtout, ce qui a matérialisé les bastides, c'est qu'il y avait ce plan préconçu, mais il y avait cette volonté de créer une ville et de la gérer ensemble. C'est-à-dire que le propriétaire du sol passait un accord avec son suzerain, donc soit le roi, soit son seigneur plus important, son suzerain, pour fonder une ville et la gérer ensemble. Il y avait cette notion de co-gestion qui est indispensable. On appelait ça le contrat de pareage. Or, à Montauban, ce n'est pas du tout le cas. Montauban est né de la volonté d'un conflit entre le comte de Toulouse et l'abbé de Saint-Théodard, donc cette fameuse abbaye de Saint-Théodard, qui se trouvait là où se trouve actuellement l'actuel conseil départemental. Mais, enfin, je veux dire, ça en a l'aspect...
Ça en a l'aspect architectural.
Architectural, voilà.
On pourrait s'arrêter là-dessus. Une bastide, c'est quoi? C'est une place centrale et des rues droites en
voilà.
Quadrillage, en quelque
c'est
sorte.
C'est ça, un quadrillage, donc un plan, une place centrale dédiée au commerce, des rues qui se coupent en angle droit. Mais ça, c'est l'aspect architectural, mais ça, c'était important, mais ça venait après. L'aspect le plus important, c'était l'aspect politique, c'est-à-dire que le propriétaire du sol passait un accord avec le représentant du roi, dit on va créer une ville, on va la gérer ensemble. Il y avait une notion de co-gestion. Et chose qui n'apparaît absolument pas à Montauban, puisque, alors c'est vrai que c'est le comte de Toulouse qui a créé Montauban, mais ce n'est pas lui qui en a eu l'initiative. Celui qui était vraiment à l'initiative, c'était l'abbé Albert, qui dirigeait l'abbaye et qui avait remarqué que, d'une part, le vieux bourg de Montauriol qui s'était développé autour de l'abbaye était difficilement défendable parce que c'était mal positionné. Et puis, il y avait eu, comme c'est une ville qui avait grossi de façon assez importante suite à la mort de Saint-Théodard, qui a donné son nom à l'abbaye, il y avait de gros problèmes d'architecture, d'urbanisme. Enfin, les maisons se construisaient de façon totalement anarchique. Et il a eu l'idée de construire une ville pour justement effacer ces problèmes, pour se dire, puisqu'on a des problèmes, on va créer une ville en repartant à zéro. Et à partir de là, on va pouvoir régler ces problèmes.
On est en quelle année?
Alors là, on est dans les années 1140.
D'accord.
Donc, l'abbé Albert achète deux terrains, les terrains de Candoulinc et de Cantaloube, qui sont l'actuel centre-ville. Il achète des terrains pour construire cette ville. Et l'emplacement n'est pas choisi au hasard, c'est que c'est très stratégique. D'une part, il y a le Tarn, donc défense naturelle. Il y a le Tescou, qui était toute une zone marécageuse, puisque le tracé actuel du Tescou date de la Révolution. Avant, c'était beaucoup plus sinueux, donc marécageux. Il y avait de l'autre côté tout le vallon de la Mandoune, qui était beaucoup plus encaissé qu'aujourd'hui, donc c'était facilement défendable. Il suffisait juste de construire des fortifications et des fossés sur ce qui est aujourd'hui l'allée de l'Empereur, donc devant l'ancien collège, jusqu'aux allées Mortarieux, pour rejoindre le jardin des plantes. Et il suffisait uniquement de creuser et de fortifier de ce côté-là, puisque les trois autres côtés étaient naturellement défendables. Donc l'abbé Albert commence à achète ses terrains, et les habitants... Comme je l'explique dans les conférences, il y avait une profonde rancœur entre l'abbaye et les habitants, ne voulant pas dépendre de la seigneurie de l'abbaye, sont allés trouver le comte de Toulouse pour lui demander de créer une ville, pour dépendre de la seigneurie du comte de Toulouse et non pas de l'abbaye. Et le comte de Toulouse, dans un premier temps, il refuse. Il refuse parce qu'il a été, tu viens tout juste d'être absous d'une excommunication par le pape, parce qu'il avait soutenu les habitants de Montpellier contre leur seigneur légitime, et donc il avait été excommunié. Donc, première réaction du comte de Toulouse, Alphonse Jourdain, niette. Enfin, il n'a pas dit ça, bien sûr, parce que légèrement,
à l'époque.
Non, c'était légèrement anachronique quand même. Mais il refuse parce qu'il ne veut pas à nouveau être excommunié.
Je vous arrête deux secondes. Quand on pense à Montauban, on va forcément y venir à un moment, un petit peu plus tard dans notre conversation. On pense à ces fameux 400 coups, on pense à cette, aux guerres de religion, aux protestants et aux catholiques. On est déjà là-dedans ou pas ?
Alors non, pour le moment, là on n'est pas du tout là-dedans. Il y a une rancœur entre les habitants et l'abbaye pour diverses raisons. Ça c'est plutôt historique, c'est que quand l'abbaye s'est constituée, l'abbaye était, alors d'Ablest, ça s'appelait pas d'abord Saint-Théodard, elle s'appelait Saint-Martin de Montauriol. Elle a été fondée par les parents de Saint-Théodard et Saint-Théodard, donc, qui est né ici, à Montauriol, est devenu archevêque de Narbonne. Et quand il est mort, avant de mourir, pardon, il est venu à Montauban pour se reposer, enfin, Montauban, entre guillemets, hein, il est venu dans l'abbaye pour se reposer. Et il est décédé le 1er mai 1993 et c'est suite à ça que l'abbaye a pris le nom, donc Saint-Théodard de Montauriol. Il y a eu ensuite l'abbaye a été dirigée par plusieurs abbés, et il y a eu une passation de pouvoir, c'est-à-dire que l'abbaye est tombée sous l'influence de l'abbaye de la Chaise-Dieu en 1079, et là, l'abbé n'était plus nommé localement, mais par l'abbaye, donc qui est en Haute-Loire, aujourd'hui, dans le département de la Haute-Loire, et cette abbaye était très pointilleuse des possessions. Et jusqu'à présent, tout ce qui se passait de façon, ce qui se réglait de façon à l'amiable, là, c'était fini, c'était réglo, ils voulaient absolument récupérer leurs possessions, et donc il y a eu une rancœur qui est née à partir de cette période, et cette rancœur entre les habitants et l'abbaye vient de cette période. Et donc, quand le comte en 1140, au moment de la création de la ville, quand les habitants ont appris que l'abbé voulait construire cette ville, ils ont dit non, ils se sont tournés vers le comte de Toulouse.
Alors, on va marquer une pause dans notre conversation, Aymeric de Ligondé, et puis on va passer directement, on va faire un bond de 1140 à cette création de Montauban par Alphonse Jourdain, qui est déjà dans le conflit, à 1621, pardon, un siège, donc là on rentre dans le conflit
complètement,
et puis vous allez nous parler aussi justement lors de ce siège, de ces fameux 400 coups qu'on fête encore aujourd'hui.
Ah, tout à fait, oui.
Et des coups qu'on peut voir, qu'on vient voir de loin, puisqu'on peut voir de nombreux touristes qui, une fois qu'ils sont passés par le musée Ingres, remontent vers l'église Saint-Jacques et voient sur le clocher de l'église Saint-Jacques et prennent en photo là ces fameux trous qu'il y a dans le mur, qui sont des coups de canon, issus de ces 400 coups. Vous allez nous en parler dans un instant.
I wish you could see that we are kings of bliss, begging for misery. We get lost in comparison, looking outside of me. Now I see this world is unraveling. I wonder who could we be? Oh, I don't want to see us lose any more time. This moment is a mountain to move. Yeah, yeah, so move it inside. Wake up now. Wake up now. Wake up now. Wake up now. Pain on the mind. any more time. This moment is a mountain to move, so move it inside. And wake up now. Give me some forgiveness. Give it to me wholeness. Cause I was lost in comparison, always pretending I knew. But everything I was looking for, I was looking through.
Tous les jours,
17h-17h30,
la vie du Tarn-et-Garonne.
CFM, le mag du Tarn-et-Garonne, en compagnie d'Emeric de Ligondet, passionné d'histoire, qui vous propose un cycle de conférences à l'Université populaire de Montauban sur l'histoire de Montauban. Le prochain épisode de ce cycle, c'est le 16 janvier prochain, le siège de 1621 et les 400 coups. Alors, ce siège de 1621, autour de Montauban, il y a l'armée du roi.
Alors, il y a à peu près 10 000 habitants, un peu moins de 10 000 habitants à Montauban. L'armée royale est composée au début de 10 000 hommes. Elle montera lors de 10 000 soldats, ouais. Donc le côté royal. Les effectifs avec les renforts monteront jusqu'à 20 000 hommes.
Mais alors, ça a l'air simple. 20 000 hommes d'un côté, 10 000 à l'intérieur. Qu'est-ce qui empêche finalement de la prendre, cette ville?
Ah ben justement, c'est qu'elle est très bien fortifiée. Et comme les Montalbanais ont anticipé la chose et ont bénéficié d'une très bonne année agricole, donc ils ont pu accumuler beaucoup de réserves. Et voilà. Donc
ils peuvent tenir un siège. Ils peuvent tenir un siège,
d'autant plus qu'avec dans les premières guerres de religion, ils avaient déjà résisté victorieusement à 3 sièges. Bon, ceux-là, on en parle moins parce qu'ils ont duré moins longtemps, notamment fait par Montluc.
Combien de temps durera ce siège?
Alors, le siège va commencer vraiment début septembre, le 1er septembre 1621, pour se terminer vers la mi-novembre.
Et qu'est-ce qui fait qu'il se termine et que finalement, les Montalbanais gagnent?
Alors, d'abord, ce qui fait que les Montalbanais gagnent, c'est qu'il y avait une dissension au sein de l'armée royale. Et tous ceux qui étaient opposés au siège pour des raisons stratégiques, au début, bon, comme le roi avait pris la décision, n'ont rien dit. Et puis au fur et à mesure, ils se sont aperçus que la ville était beaucoup plus difficile à prendre qu'ils ne l'avaient envisagé. Ils n'ont pas pu empêcher les renforts d'arriver. Donc ça, c'était une des causes de l'échec. Et puis il y avait le fait que le roi était logé au château de Piquecosse avec le connétable. Le connétable, c'était le connétable de Luynes, c'était le chef des armées, après le roi bien sûr. Et il s'était opposé à pas mal pour des raisons financières, à pas mal de renforts.
D'accord.
Donc, ce qui lui sera reproché par la suite. Et il y a également le fait qu'il soit à Piquecosse, donc c'était trop éloigné. Donc du lieu de décision, et donc il y a une perte de temps entre le fait de donner les ordres et leur réalisation. L'armée avait été divisée en 3 parties, et notamment au niveau de Villebourbon, il y avait des rivalités au sein de l'armée, entre le maréchal de Thémines et le comte de Mayenne, le duc de Mayenne, et il y a eu des actions périlleuses qui ont été lancées et qui étaient inutilement dangereuses et qui n'ont pas porté leurs fruits.
Et puis, on en parle, à Montauban, on parle forcément des 400 coups. On parle des femmes. Quel rôle ont joué les femmes dans ce siège de 1621 ?
Alors les femmes ont joué un rôle effectivement important, puisqu'il y a quelques années, il y avait un spectacle musical qui était fait autour donc ça avait été appelé inutilement la légende des 400 coups, mais bien que les 400 coups ne soient absolument pas une légende, mais il y avait notamment une femme, une Guillemette de Gasque, qui a réellement existé et qui s'est battue vaillamment, qui est morte lors des combats, et les femmes participaient également aux combats au même titre que les hommes.
D'accord. Et alors, ces fameux 400 coups?
Alors ces fameux 400 coups, ça c'est, alors c'est vrai que quelquefois, un peu moins maintenant, mais quand on va sur Internet, si vous tapez 400 coups, il y a beaucoup de... Enfin, souvent on trouve que c'est une légende. Ce qui est totalement faux. J'avais même vu une fois qu'une personne qui disait que c'était une légende, dans une célèbre encyclopédie, parce que le roi n'avait pas 400 canons. Donc on pouvait pas tirer 400 coups. Ce qui est complètement, entre guillemets, farfelu comme explication, parce que le roi, bien évidemment, n'avait pas 400 coups, ils en avaient que 45.
Ils avaient 400 canons, il avait 45 canons, mais il pouvait tirer plusieurs coups.
Voilà, oui, parce qu'on a bien, on a des textes qui montrent qu'il y a eu bien des journées où bien plus de 400 coups de canon ont été tirés, puisqu'on estime à peu près que sur l'ensemble du siège, 20 000 boulets ont été tirés sur Montauban. C'est une estimation que les historiens s'accordent à dire, 20 000 boulets. Voilà, donc il y a eu bien des journées. Et donc ce n'est pas une légende du tout, puisque nous avons des textes, les mémoires du maréchal de Bassompierre. Et alors, le maréchal de Bassompierre a été chargé par Louis XIII de faire tirer les 400 coups de canon. Et donc ça c'était en 1621, et il a publié ses mémoires à Amsterdam en 1623, où il parle justement de cet épisode. Et donc ce n'est pas du tout une légende.
Mmh. Et qu'est-ce qui fait que Montauban n'a pas été complètement détruit et ravagé par ces 400 coups de canon?
Beaucoup de bâtiments avaient été gravement endommagés, notamment sur le pont vieux où il y avait à l'époque une tour médiévale, puisque le pont vieux était fortifié. Il y avait une tour médiévale d'une vingtaine de mètres de haut qui était côté Villebourbon, qui était gravement endommagée, et de nombreux bâtiments ont été restaurés par la suite parce que ils estiment qu'à peu près 20 000 boulets de canon qui seraient tombés sur la ville. Ce qui est quand même assez considérable.
J'imagine que les Montalbanais, quand le siège en fin novembre est levé, font la fête?
Alors effectivement, les Montalbanais vont faire la fête, ils vont fêter ça. Et c'est vrai que quand vous parliez des boulets, des impacts de boulets sur l'église Saint-Jacques, alors est-ce qu'il date du siège? Il date du siège, oui. Est-ce que ça date des 400 coups? Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a deux autres choses que l'on peut voir, des traces de ce siège. Ben, c'est d'abord l'avenue de Mayenne, qui porte le nom en mémoire justement du siège, puisque c'est là où est décédé donc le duc de Mayenne. Ça n'a rien à voir avec la région, la Mayenne. C'est tout simplement le duc de Mayenne qui dirigeait la ville, qui dirigeait l'armée royale côté Villebourbon, qui est mort à cet endroit, donc du côté à peu près de l'emplacement actuel de la place Lalaque. Le 16 septembre 1621, il est mort là. Donc c'est en sa mémoire que cette avenue porte le nom d'avenue de Mayenne. Et côté ville protestante, il y a l'avenue Chamier, qui est en mémoire de Daniel Chamier, qui était pasteur et qui est mort lors du siège.
Bon, ça c'est des endroits historiques à voir. Et puis pour commémorer tout ça, on sait que Montauban fête chaque année
les 400 coups.
Ces 400 coups. Merci de ces éclaircissements, Aymeric de Ligondé. Le 16 janvier à 18h à l'Université Populaire, vous donnerez une conférence sur le siège de 1621 et les 400 coups. Il y en aura une autre en suivant le 30 janvier 1635, 1790, la généralité de Montauban.
Voilà.
Et puis vous referez une conférence sur la fondation de la ville le 6 mars, le 27 mars sur les fortifications de Montauban et le 10 avril sur les hôtels particuliers de la ville. Merci d'être venu en parler ici. Ces conférences à l'Université Populaire, je crois que c'est 6 euros.
Voilà, alors ça,
pour le grand public.
Voilà,
c'est
l'Université Populaire demande une participation. Alors moi, ce que je fais, j'invite les personnes intéressées à contacter directement l'Université Populaire pour s'inscrire. N'hésitez pas, il ne faut pas les...
Alors l'Université Populaire, vous les appelez soit par leur site internet, l'UPN Montauban, ou bien au 05 63 03 34 98.
Voilà, exactement.
Merci à vous.
Je vous remercie.
Et merci à vous, auditeurs et auditrices de CFM, d'avoir été avec nous tout au long de ce mag, qui sera rediffusé demain midi pour ceux qui auraient loupé le début. Sinon, tous les mags du Tarn-et-Garonne sont disponibles en podcast sur le site cfmradio.fr. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.